Qui sont les saints? Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est intéressant de pouvoir le préciser un peu parce que l'être humain a tendance à se forger des idoles. Et ça peut nous arriver aussi avec les saints. On peut arriver à avoir une dévotion même envers les saints qui glissent un peu dans la superstition, dans la magie. Et on les rend un mauvais service. À force de vouloir les exalter, on perd de vue ce qui est essentiel et qui pourrait et devrait nous aider à avoir un grand désir de la sainteté pour arriver un jour à vivre en leur compagnie. La sainteté, en fait, c'est la plénitude de la charité. On devient saint quand on accomplit la parole du Seigneur. On devient saint quand on fait sa volonté. On devient saint quand on se laisse façonner par la parole de Jésus et quand on accepte aussi les prix à payer. On devient saint quand on s'oublie soi-même. On devient saint quand notre vie commence à imiter cette bonté de Dieu qui nous a fait par amour et qui nous regarde avec amour à chaque instant de notre existence. On a toute la vie pour entrer dans cette logique, dans cette lumière, dans cette grâce de la charité. Les saints du ciel que nous fêtons aujourd'hui, c'est les saints canonisés. Saint-Pierre, Saint-Paul, nous allons chanter tout à l'heure une partie de la litanie des saints. Nous avons Saint-Antoine, Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous avons aussi, aujourd'hui nous faisons aussi la louange de tous les saints anonymes. Les saints, comme dit le pape François, de la porte à côté, tous ceux qui n'ont pas été canonisés. Et c'est certain que dans la famille de chacun de nous, il y a des saints, des hommes, des femmes, une mamie, un oncle, un cousin, qui étaient remarquables, qui avaient fait des progrès dans l'amour des autres. Un saint n'est pas quelqu'un qui n'a pas de défauts, qui n'a pas dû se battre. C'est pour cela que nous avons l'espérance de pouvoir devenir des saints. Vous avez des défauts? Vous êtes fait pour la sainteté. Il n'y a pas d'excuse. Les saints, c'est ceux qui ont essayé de se battre pour permettre aux critères de Jésus, à la logique de Jésus, d'entrer dans leur cœur, et qui vivent dans la vie éternelle, et là, notre imagination peut nous égarer. Saint Jean, dans la deuxième lecture, nous a dit, nous ne savons pas comment ça se passe, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, et là-bas, on ne sait pas trop bien. Mais on a quelques repères, quelques certitudes. La vie au paradis, dans les ciels, c'est la vie dans la, où on va voir Dieu. Voilà les peuples de ceux qui cherchent ton visage, Seigneur. On va finalement découvrir ce visage qui nous aime et que je pense va nous accueillir avec un grand sourire et il va nous rassurer. Et on va être ébloui de ces visages, mais aussi on va vivre dans la société d'hommes et de femmes pour lesquels la seule loi, c'est l'amour. cette bienveillance, cette miséricorde, cette pureté de cœur, voilà, qui s'exprime dans l'amour. Voilà, de même, moi je me souviens, j'étais petit, j'allais rendre visite à une tante, et elle m'accueillait avec un grand sourire. On a tous vécu cette expérience, une mamie, quelqu'un qui vous accueille et qui vous montre une joie de... Eh bien, là-bas, tout le monde se réjouira, même de rencontrer les curés. Vous voyez, c'est une beauté, la vie éternelle qui nous est promise. Mais cette charité, il faut bien la comprendre. Parce que sinon, on arrive à imaginer que ça serait une chose mièvre et personne n'a envie de vivre de cette manière. Voilà, on est confronté à des ennemis maintenant. Jésus nous dit, il faut les aimer. Il faut les aimer dans leur humanité. Ça ne veut pas dire qu'on va être dupe, qu'on ne va pas faire les distinctions. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va s'exposer ni aux terroristes, ni aux personnes qui sont violentes, ni à ceux qui nous font du mal. Voilà, on peut les aimer, mais Jésus il ne nous dit pas de les embrasser, il nous dit de prier pour eux. La charité doit être intelligente. La charité, c'est comme un tapis, très beau, qui est fait d'une infinité de petits points qui sont tissés et qui sont reliés dans les dos du tapis. Les personnes qui... Les femmes, les dames qui ont brodé, elles savent que derrière, c'est pas tout lisse. Derrière, on peut remarquer le travail. Et ce travail qu'il y a derrière, eh bien, on pourrait dire c'est les béatitudes. Parce que la sainteté nous rend heureux. Mais nous rend heureux quand nous devenons pauvres dans le cœur. Elle nous rend heureux et nous apprenons à aimer les autres quand nous sommes miséricordieux parce que nous avons besoin de la miséricorde. Nous sommes heureux quand nous apprenons à pardonner. Nous sommes heureux quand nous cherchons la justice. Quand on ne se permet pas des écarts qui peuvent nuire les autres. On est heureux quand on fuit l'impureté, l'impureté qui est de toutes les couleurs. On devient heureux quand on est paisible, quand on est doux. On devient heureux quand on met en pratique la parole de Jésus. Et toutes ces béatitudes, il nous amène au même lieu, à la vie éternelle. Il nous amène les pauvres de cœur. À lui appartient le royaume des cieux. Celui qui sont persécutés par le nom de Jésus, à eux appartient le royaume du ciel. Celui qui est doux va hériter la terre promise. Celui qui est miséricordieux va recevoir miséricorde. Les purs de cœur, ils verront Dieu. C'est des différentes manières de décliner cette joie du ciel qui échappe à notre imagination. Essayons de voir, non pas toutes les béatitudes. Je voudrais simplement m'arrêter sur la première. Ce que veut dire être pauvre dans son cœur. Les pères de l'Église nous disent, l'évangéliste a pris soin de préciser que ce n'est pas la pauvreté matérielle qui nous rend heureux, sinon tout le monde serait heureux, au moins tous les pauvres. C'est la pauvreté du cœur. C'est quoi cette pauvreté? C'est la pauvreté de celui qui manque de moyens. Et ça veut dire quoi, manquer des moyens dans l'esprit, de se rendre compte que ce que nous sommes, que notre existence ne nous appartient pas. La vie nous a été donnée pour la vivre, selon la parole de Jésus, et pour apprendre à réaliser que nous sommes des passages, vivre dans une liberté, dans un détachement où mon seul véritable bien est le Seigneur. Et donc, celui qui est pauvre, par là même, il va cesser d'être présomptueux. C'est-à-dire, il ne va pas présumer que tout lui est dû, qu'il mérite mieux. Au contraire, les pauvres, ils reconnaissent son manque, et ils savent que sans le Seigneur, il ne peut rien, et que rien n'est acquis dans la vie, que rien ne nous est dû. Et ça devrait nous faire réfléchir, parce que nous vivons dans une société qui multiplie comme une machine les droits. On a tous de plus en plus de droits. Et alors, on est toujours mécontent parce que nos droits ne sont pas respectés. Les droits ne se fabriquent pas par décret. Au contraire, c'est lui qui se rend compte que finalement tout est grâce, que ce n'est pas par ses mérites qu'il possède ce qu'il possède, eh bien, il rentre dans la gratitude, il arrête de râler. Voyez, quelle béatitude si nous arrêtions de... Quel bonheur si nous arrêtions de râler, de nous plaindre, d'accepter, que nous commencions à accepter la vie. Je prends 2 minutes pour vous raconter une histoire très belle que j'ai lue dans une biographie imagée d'Hélène, la mère de Constantin, Sainte Hélène. Sainte Hélène, elle est au commencement de l'Église, au IIIe siècle. Constantin est celui qui va donner la liberté religieuse. Et Hélène est née, on sait qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Elle tombe amoureuse, ou plutôt l'empereur, le papa de Constantin, tombe amoureux d'elle. Elle était ravissante, intelligente et tout ça. Elle devient, comment dire, impératrice. Elle va à Rome. Mais après, avec le temps, son mari, qui était l'empereur, il partait dans les campagnes militaires à droite et à gauche, et il avait des amis à droite et à gauche. Et un jour, elle, on dit qu'à Trèves, en Allemagne, et un ami d'enfance vient lui rendre visite et lui pose une question un peu sournoise parce qu'Hélène était, voilà, son mari l'a trompée, pour le dire plus clair. Alors, lui, il lui demande: Hélène, est-ce que tu as finalement trouvé ce que tu cherchais dans ta vie? Tu étais inquiète, tu voulais connaître le monde. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Hélène lui répond: je n'ai pas trouvé ce que j'ai cherché. J'ai appris à aimer ce que j'ai trouvé. C'est ça la béatitude, c'est ça le bonheur. Nous ne sommes pas les bons dieux. Et nous devons apprendre à accepter ce que nous vivons et à reconnaître la main de Dieu avec reconnaissance. Et alors nous deviendrons plus heureux que nous ne le sommes encore. Parce que sinon, notre béatitude va être un peu marquée par la mondanité. Dans le monde, le bonheur vient de la richesse, de la reconnaissance, de la maison secondaire, des vacances, des croisières, des voyages, et tout ça n'est pas toujours à notre portée. Vous voyez, c'est ces fils un peu, même parfois un peu douloureux, qui est tissé le bonheur des saints, Et c'est quand on arrive à ce détachement intérieur et à rendre grâce au Seigneur, on se met en communion avec lui et en communion, on ouvre le cœur aussi à la communion avec nos frères. Que tous les saints qui nous regardent du ciel avec amour intercèdent pour nous et nous aident à vivre ce que nous avons à vivre dans l'action de grâce.